Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. PSA se prépare à quitter l'Iran. Le groupe automobile français veut ainsi échapper aux sanctions américaines après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Manifestement, le groupe n'a pas obtenu des garanties de l'État français, analyse un spécialiste de l'IRIS.
Et pendant ce temps, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poursuit sa tournée européenne contre Téhéran. Il est reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui. Nous y reviendrons.
Dans ce journal encore, le nouveau texte de la réforme ferroviaire amendé par le Sénat qui doit voter aujourd'hui. Les syndicats réformistes sont plutôt satisfaits quand d'autres, en revanche, comme Sudrail, veulent maintenir le mouvement de grève.
Et puis, quel audiovisuel public pour demain ? La ministre de la Culture a donné des pistes hier, mais aucun budget.
De la définition mouvante de la notion du lobby en politique, voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss dans un gros quart d'heure. Mais d'abord, nous vous emmenons ce matin dans le sud de la Tunisie, dans l'une des villes les plus défavorisées du pays, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière libyenne, Tataouine, dont sont partis de nombreux jeunes Tunisiens en mer ce week-end, dans l'espoir de rallier l'île italienne de Lampedusa. Beaucoup n'en sont pas revenus. Le bilan provisoire ce matin est de 60 morts. Des Tunisiens devenus migrants, c'est un reportage de notre correspondante Maureen Mercier.
À Tataouine, les jeunes qui meurent en mer, c'est devenu la norme. Devant cette maison modeste du centre-ville, cette mère, entourée de ses 8 enfants, enterrera demain le corps de son enfant. Et oui, c'est elle qui l'a encouragée à partir.
J'ai perdu mon mari il y a 12 ans. Aujourd'hui, tous mes enfants sont diplômés, mais aucun ne trouve du travail. On ne s'en sort plus. Que Dieu me donne la force de résister. J'ai connu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais là... Non, je ne laisserai pas mon deuxième fils partir.
La famille et les voisins se sont réunis autour du corps de la victime. Son frère, 24 ans, lui aussi devait grimper à bord, mais...
On était trop nombreux. Au dernier moment, le passeur m'a dit de patienter encore 4 jours avant de pouvoir partir à mon tour.
Vous avez perdu votre frère. Est-ce que vous êtes toujours prêt à partir ? Par la mer ?
Oui, par la mer.
Vous savez, j'irai là où je peux travailler, en Libye, en Europe, peu importe, là où je peux travailler.
Abdelatif Rida, 40 ans, n'en peut plus de voir les jeunes de sa ville se suicider en mer, comme il dit.
Après la révolution, on a vraiment une démocratie, mais on n'a que ça. Ça ne suffit pas, ça. On est dans une région où les hommes d'affaires, ils n'investissent pas là-dedans. Il n'y a rien.
Pour lui, le coupable, c'est l'État.
L'État, elle n'a aucun outil pour surveiller comme il faut les frontières, c'est de leur intérêt de le faire passer de l'autre côté. Ils se débarrassent.
40 victimes du naufrage seront enterrées. Des dizaines d'autres familles attendent, elles, toujours que les sauveteurs retrouvent enfin le corps de leur fils.
Un reportage de Maureen Mercier. Les Tunisiens, précisons-le, sont aujourd'hui les deuxièmes, juste après les Érythréens, les deuxièmes à tenter la traversée vers l'Italie sur des embarcations surchargées. L'accord sur le nucléaire iranien sera-t-il bientôt peau de chagrin ? En tout cas, les négociations entre Téhéran et les Européens ne semblent pas avancer. Et les derniers propos de l'ayatollah Ali Khamenei hier à la télévision sonnent comme un avertissement. Le guide suprême de la révolution iranienne prévient en ces mots « Le peuple et le gouvernement d'Iran ne tolèreront jamais de devoir supporter à la fois des sanctions et des limitations en matière nucléaire. Cela, dit-il, n'arrivera jamais. » Selon une agence de presse iranienne d'ailleurs ce matin, le pays va accroître sa capacité d'enrichissement d'uranium pour se tenir prêt. Téhéran doit l'annoncer aujourd'hui à Vienne lors d'une réunion de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Climat tendu, on le comprend bien. Alors que dans le même temps, un homme fait une tournée contre Téhéran en ce moment pour convaincre les Européens d'emboîter le pas aux États-Unis. Cet homme, c'est Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Après Berlin hier et avant Londres demain, il est à Paris ce mardi pour s'entretenir avec Emmanuel Macron dans un but bien précis, Nadine Epstein.
Le premier ministre israélien a affiché ses intentions. Il veut parler de 2 sujets, l'Iran et l'Iran. Il veut convaincre les Européens de la dangerosité du régime de Téhéran. Benjamin Netanyahou aurait fourni aux 3 pays qu'il visite des documents secrets qui prouveraient que l'Iran ment sur son programme nucléaire. Son objectif, infléchir la position de ses interlocuteurs. Les Européens, eux, sont déterminés à sauver l'accord qu'ils ont signé malgré le retrait américain. Mais Benjamin Netanyahou, qui insiste sur la sécurité d'Israël, s'appuiera sur un point qu'il partage avec Merkel, Macron et Theresa May, la latitude de nuisance présence de l'Iran au Moyen-Orient et ses interventions dans les conflits syriens, yéménites, mais aussi au Liban et en Palestine. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait proposé à Donald Trump de lier les dossiers, ouvrir des pourparlers avec Téhéran qui engloberaient son programme balistique et sa politique d'influence au Moyen-Orient. Le président Macron et le Premier ministre israélien, qui se connaissent déjà, auront cet après-midi des entretiens politiques, certes divergents sur l'Iran, mais la France et Israël sont des amis de longue date et ils l'affichent. Dans la soirée, les deux dirigeants donneront le coup d'envoi des saisons croisées France-Israël 2018. Ils inaugureront une exposition au Grand Palais à Paris sur l'innovation intitulée Israel Lights.
Voilà pour les enjeux, le programme de cette rencontre. Officiellement, Emmanuel Macron promeut l'accord sur le nucléaire iranien, mais force est de constater que la France et plus généralement l'Europe a bien du mal à convaincre ses entreprises de rester en Iran, a du mal à trouver les bons arguments. Total d'ailleurs avait prévenu et c'est maintenant PSA qui plie. Le constructeur automobile français, je vous le disais en titre, annonce son retrait. Il commence à suspendre les activités de ses co-entreprises en Iran. Lui qui pourtant a vendu 450 000 voitures l'année dernière à l'Iran, c'est donc un revers pour le constructeur français et un revers aussi pour Téhéran, analyse ce matin Thierry Coville, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et stratégiques, spécialiste de l'Iran.
C'est simplement le plus gros constructeur, celui qui a la plus grosse part de marché en Iran, vous imaginez. Hein. Donc vous avez dit, ils sont 450 000 véhicules par an. Je crois qu'ils ont à peu près au moins le tiers du marché iranien. Il faut savoir que l'industrie automobile en Iran, c'est le plus gros pourvoyeur d'emplois après l'industrie pétrolière. Je crois qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui travaillent dans l'industrie automobile si on compte les sous-traitants en Iran. Donc vous imaginez déjà les conséquences sur l'emploi en Iran. Alors là, est-ce que les Iraniens vont avoir le temps de remplacer, entre guillemets, par un groupe notamment éventuellement chinois? Mais ça va être compliqué pour l'Iran. Très clairement, il va y avoir des conséquences sur l'emploi, il va y avoir des conséquences sur la qualité des produits, parce que si on compense le manque de produits européens par des produits chinois, bon, il y aura un problème de qualité. Non, très clairement, il y aura un coût pour l'économie iranienne.
Thierry Coville de l'Iris, interrogé par Alexis Morel.
La suite des matins de France Culture avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Il est 8h07, envers et contre la grève. La réforme ferroviaire doit être votée aujourd'hui au Sénat.
Vote solennel d'un texte finalement assez fidèle à l'original, adopté il y a quelques semaines à l'Assemblée. Les sénateurs en ont conserver les grandes lignes, à savoir l'ouverture à la concurrence, la fin du statut de cheminot et la transformation juridique de la compagnie de la SNCF. Une évolution toutefois, les salariés transférés pourront demander à réintégrer le statut SNCF jusqu'à 8 ans après avoir quitté l'entreprise. Une modification qui répond à la demande des syndicats réformistes, mais il reste à l'épreuve de la commission mixte paritaire dans une semaine, le 13 juin. D'ici là, CFDT et UNSA se laisse le temps de réfléchir à la suite du mouvement. En revanche, Sudrail, qui souhaite durcir la grève, n'est déjà pas satisfait. Son secrétaire fédéral Bruno Poncet.
Nous, on reste sur le mandat qui a été donné par les cheminots depuis le départ et qui a été confirmé par le vote action il y a 15 jours. Aujourd'hui, les cheminots, comme avant, et les usagers aussi, veulent le retrait du pacte ferroviaire. Donc pour nous, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et ce n'est pas quelques amendements qui ressemblent plus à un ruban sur un paquet cadeau. Et qui est surtout un cadeau empoisonné, qui vont nous faire changer les choses. Nous, aujourd'hui, on ne voit pas l'intérêt, on ne voit pas pourquoi on sortirait de ce mouvement, sachant qu'il n'y a que par le mouvement qu'on arrive à avoir un rapport de force. Bah après, moi, je pense que faut demander à l'UNSA, à la CFDT, s'il trouve que c'est respecter le mandat de penser que 2-3 amendements peuvent faire changer les choses. Moi, je pense pas. Je pense même, et les avoir entendus la semaine dernière en interfédéral, je les ai pas entendus avoir envie de sortir. Après, qu'ils veulent jouer le jeu législatif, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre aussi qu'ils essayent. Mais nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et en plus, il y a aussi la date du 13 juin qui va être importante parce que là, certainement, l'Assemblée nationale retoquera certainement des amendements qui ont été passés. Donc aujourd'hui, nous, on voit pas en quoi c'est une avancée. Ils ont essayé. J'ai l'impression que ça n'a pas marché. Eh ben, faut renforcer le mouvement.
Bruno Poncet avec Hakim Kasmi. Sudrail appelle par ailleurs à manifester devant le Sénat cet après-midi. Le soulagement des actionnaires à la Société Générale. Pour un peu plus d'un milliard d'euros, la banque règle 2 litiges judiciaires qui l'empoisonnaient depuis des années en France et aux États-Unis. Des soupçons de corruption avec le fonds souverain libyen et les manipulations du taux interbancaire Libor. Quelle meilleure intégration des étrangers en France? Le gouvernement dévoile ses pistes ce matin. matin. C'est le versant humaniste, en quelque sorte, d'une politique qui se veut intraitable contre l'immigration irrégulière. Les heures d'apprentissage du français devraient ainsi être doublées. 40 000 réfugiés sont arrivés en France l'année dernière pour s'y installer durablement. Nous l'évoquions hier, la réforme de l'audiovisuel public, sans chiffres, pas de budget, pas d'économie précise, pas de décision non plus sur l'organisation, sur la gouvernance. Tout cela a été renvoyé pour 2019. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a tout de même donné les grandes orientations de cette réforme. 17 000 salariés, je vous le rappelle, sont concernés. Elle a donc changé les missions de l'audiovisuel public. Dans son discours hier, informer, éduquer et distraire ont été remplacés par proximité, information et éducation. Un changement qui interpelle les syndicats. Comment faire plus de proximité à la télévision, par exemple, sans moyens supplémentaires a priori? Cécile de Kervas-Doué les a contactés.
Trois fois plus de programmes régionaux pour les chaînes de télévision publiques, soit 4 heures supplémentaires. Sauf qu'il n'est pas question, a rajouté la PDG de France Télé, d'investir des moyens supplémentaires qui seront, eux, réservés à France Info, la télé. Un jeu de dupes, donc, que dénonce Véronique Marchand, journaliste à France 3 Lille et secrétaire générale du SNJ-CGT.
On est à l'os partout en région. Si c'est pour mettre une caméra dans un studio de France Bleu, c'est pas ça la télévision. La télé, c'est d'abord montrer la vie des gens en reportage. On n'est pas là pour faire que de l'infoservice et donner l'horaire des trains. En région, il y a des grands groupes qui font faillite. Il y a des gens qui passent la frontière avec leurs valises de billets. Nous, on a à en rendre compte. Il est question aussi de démocratie.
La solution avancée est de rapprocher les 24 télés et 44 radios locales sur le modèle d'un média global, c'est-à-dire avec une polyvalence de métiers, de supports ou de techniques. En Ile-de-France et à Marseille, des expérimentations de ce type seront donc menées dès la rentrée. Un beau rêve, considère Valérie Emmanuelet, secrétaire nationale du Syndicat national des journalistes à Radio France.
C'est la quadrature du cercle. Le temps que nous avons, 10 heures par jour en général, ne peut pas permettre d'être au courant de l'actualité, de s'informer sur cette actualité, de vérifier les informations et de les mettre en forme pour plusieurs radios au sein du groupe, de faire des photos et de la vidéo et en plus des directs pour France 3. Soit on va faire moins de radios, soit on va moins vérifier. Mais le numérique, ça c'est la priorité.
Le problème c'est que pour le numérique non plus, les moyens n'y sont pas. L'investissement supplémentaire annoncé n'atteint que les 3,8% du budget annuel de l'audiovisuel public contre 3% aujourd'hui. 3% pourtant jugé grandement insuffisant par rapport au modèle tant loué par le ministère, celui de la BBC qui y investit 12% de son budget.
Et précision de la présidente de Radio France, Sybille Veil, ce matin chez nos voisins de France Inter. Il ne faut pas parler de fusion entre France Bleu et France 3, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais un rapprochement sera fait effectivement en fin d'année lors des matinales communes dans deux villes, Paris ainsi que Marseille. Voilà pour les précisions de Sybille Veil, présidente de Radio France. En bref, par ailleurs, la grève durait depuis 2 semaines. Le mouvement est maintenant terminé à la Comédie Française. Un mouvement de grève qui portait entre autres sur les salaires et qui avait provoqué plusieurs annulations. Nous sommes le mardi 5 juin, journée mondiale de l'environnement. L'occasion pour nous ce matin d'aller aux États-Unis qui sont sortis des accords de Paris sur le climat depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Pourtant, des Américains, oui, travaillent pour l'environnement. En Californie, l'État le plus peuplé et le plus riche de l'Union, c'est même l'une des priorités. Le gouverneur est devenu l'interlocuteur des puissances étrangères sur ces questions. Peut-être parce qu'il fait justement face à d'immenses défis, mais il prend les devants, Loïc Piala.
À partir de 2020, chaque nouvelle maison construite en Californie devrait être équipée de panneaux solaires. La mesure officialisée le mois dernier n'a pas échappé aux critiques de ceux qui la trouvent extrême. Elle s'ajoute à la liste des textes déjà votés ou en préparation sur l'environnement dans le Golden State. Paille en plastique interdite, restriction de la consommation d'eau, vaste subvention aux énergies propres. À Sacramento, la capitale, les parlementaires locaux ne s'interdisent rien. Il faut dire qu'entre sécheresse, coulée de boue, incendie et 8 des 10 villes les plus polluées du pays, les Californiens ont compris qu'il fallait agir. À commencer par leur gouverneur Jerry Brown, devenu porte-parole officieux de l'Amérique qui croit au réchauffement climatique.
La Californie ne va pas attendre Trump ou ceux qui nient le réchauffement climatique. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour être du côté de la nature et ne pas s'opposer à elle. Nous ferons face concrètement aux défis du réchauffement climatique.
Le prochain gouverneur, élu en novembre, devra poursuivre le combat. La Californie a par exemple attaqué en justice l'administration Trump pour avoir assoupli la loi sur la pollution automobile. Cinquième puissance économique mondiale, avec 38 millions d'habitants et presque autant de véhicules, la Californie peut de toute façon imposer ses conditions aux constructeurs et elle veut 5 millions de voitures propres sur les routes en 2030. L'État n'a pas pour autant renoncé à produire du pétrole et ses transports en commun laissent toujours à désirer. Le sommet international sur le climat prévu en septembre à San Francisco sera l'occasion de le rappeler.
Le monde qui subit donc les mauvaises habitudes de l'homme, le monde qui se déchaîne aussi 8 km de lave en fusion au Guatemala en ce moment à cause de l'éruption du volcan Fuego. En quelques jours, au moins 65 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées. C'est la plus violente éruption enregistrée depuis plus de 40 ans dans le pays d'Amérique centrale. En France, un temps encore très orageux ce mardi. 15 départements sont d'ailleurs en vigilance orange, de la Corrèze jusqu'à la Haute-Vienne. L'Eure, le département de l'Eure, par ailleurs, est en vigilance pluie et inondation dès ce matin. Il fait 14 degrés à Cherbourg, 18 à Lille, Bordeaux et Périgueux, 21 à Paris. Comptez 23 degrés à Marseille, jusqu'à 25 ce matin à Strasbourg.